I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec, le podcast où je donne chaque 1er et 15 de chaque mois la parole à un mec pour répondre à une question essentielle mais que pourtant trop peu de gars se posent. C'est quoi pour toi être un mec ? Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interview, j'adore vraiment cet exercice, mais je fais aussi des émissions en direct sur Twitch, tous les lundis, les mercredis et les vendredis, sur des sujets divers et variés, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire si vous préférez l'écrit. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Cette semaine, je reçois Michel Venom, que vous avez peut-être déjà vu sur Instagram sous le pseudo Ragnar le Breton. Michel est un grand mec de 2 mètres, très baraqué, avec une grosse voix, et il est en train de percer sur Instagram grâce à son personnage « con comme une huître », comme il le dit lui-même, mais très humain par plein d'autres aspects. Vous entendrez, on en discutera d'ailleurs ensemble. On parle de son rapport à la masculinité, de sa jeunesse tourmentée où il était perdu dans la vie après le divorce de ses parents, et comment sa femme, qu'il a rencontrée très jeune, a réussi à le canaliser et à le faire revenir dans le droit chemin. On discute aussi de colère, de violence, de paternité. Et vous verrez que même si Michel a du mal à s'ouvrir à ses émotions dans cet épisode, on sent sous la carapace du bonhomme un gros cœur tendre. Comme il dit. Et puis je vous souhaite une belle écoute. On est avec Michel Venom. Ouais. Mais quelle joie! Je sais pas comment t'appeler, Michel Venom, Ragnar le Breton.
Michel, c'est bien.
T'es vraiment breton?
Ouais, je suis breton.
Ah, ça pour le coup?
Je suis breton avec des origines russes.
Ah ouais?
Ouais. Du côté de ma maman, ouais.
Ah, ça se voit un peu dans la stature.
Ah oui. Mais autrement, je suis breton du Finistère, ouais.
Ok. Tu sais qu'il y a une légende qui dit que tu rencontres un breton, il te dit tout de suite dans les 3 premières secondes qu'il est breton, quoi.
Ah bah, c'est une fierté, moi je suis très fier d'être breton. Ouais.
Toi, tu l'as carrément mis dans ton pseudo.
Mais je suis très fier de la Bretagne.
Je pensais que c'était une vanne.
Non, je suis très fier de la Bretagne parce que c'est une région qui a une identité, tu vois, qui a un... où les gens ont un caractère assez atypique, tu vois, puis c'est une région que j'apprécie beaucoup, moi.
Et donc, disons que toi aussi, t'as un peu un caractère atypique, j'ai l'impression.
Bah, je sais pas, mais après... non, mais après, je suis... Ouais, je suis un peu... Ouais, un peu particulier, on va dire. Ouais.
Bon, Michel, ouais. Il faut que tu nous expliques un petit peu. Moi, je t'ai rencontré je t'ai découvert sur Internet il y a 15 jours.
Ouais.
T'avais 70 000 abonnés, un truc comme
ouais,
ça.
Un truc comme ça, ouais.
Et j'ai envoyé à une pote en me disant, t'as vu, il est marrant ce grand couillon, là,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Et 3 jours plus tard, t'avais 100 000 abonnés.
Ouais.
Et 5 jours plus tard, t'avais 150. Et puis là, maintenant, t'es à 250 000 abonnés. T'es en train de, ce qu'on appelle sur Internet, percer.
Bon, après, percer, je sais pas si. Mais non, je suis content que les gens aient eu. Il y a eu des bons retours, tu vois. Après, moi, je fais ça pour m'amuser, donc c'est vraiment un délire, machin. Mais ça m'a fait plaisir que les gens aient des bons retours, tu vois.
T'es en train de créer un mouvement, donc pour les gens qui... Bon, je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller voir et tout. Mais donc t'as inventé un geste un peu con, quoi, tu vois, où tu fais...
Ah oui, bah, c'est complètement con, ouais, je te l'accorde.
Mais ça y est, la France entière est en train de s'y mettre, quoi.
Après, je sais pas la France entière, mais en tout cas, les gens aiment bien, c'est marrant, quoi. C'est vrai que c'est...
T'as posté des chirurgiens qui foutent...
Ouais, des chirurgiens, j'ai eu des policiers, j'ai eu des mecs de l'armée... Ah, j'ai eu un peu de tout. Hein. Il y avait une polyvalence sur le « ça c'est important, ouais.
Sur le « us
ouais. ».
Il le fait très bien. Et en fait, je suis très heureux de t'avoir dans ce podcast parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un grand bonhomme musclé qui est dans les codes de la virilité, quoi. Tu vois. Et toi, t'es dedans, tu vois. T'as une grosse voix, t'es musclé. Tu mesures combien,
mètre? 1m97, ouais.
Voilà, j'allais dire 2 mètres, on n'est pas loin.
Je t'en prie.
Non, mais... Le mec est 2 mètres, ouais.
Ouais, ça ratait bien.
ça ne change rien.
3 cm près. Ouais.
Tu peux dire que tu fais 2 mètres, personne ne va venir vérifier.
Je le dis souvent avec les chaussures, ouais. Ça passe mieux.
Avec les chaussures, tu fais 2 mètres.
2 mètres, ouais.
C'est comme les basketteurs en NBA, là, tu vois. Ils se mesurent avec les chaussures,
avec
quoi.
Les pompes, ouais.
Ça fait toujours mieux. Et puis, t'es un immense bonhomme, t'as dû pousser à la salle? Ou c'est naturel chez toi?
Non, alors moi, j'ai une ossature déjà assez. assez conséquente. Mais après, oui, j'ai fait de la muscu, j'ai fait du sport pendant longtemps.
T'as fait quoi comme sport?
J'ai fait basket, j'ai fait judo, J'ai fait un peu de tout, hein. J'ai fait du grappling, j'ai fait un peu de tout.
C'est quoi du grappling?
C'est du sol, c'est de la lutte avec soumission, c'est du jiu-jitsu sans kimono.
Ok, d'accord. Donc,
j'ai pas un niveau extraordinaire non plus, hein, mais ça défoule, quoi.
Ok. T'es bon en sport?
Ça va, je me débrouille bien, ouais.
Le mec qui dit ça en général.
Non, ça va, je suis pas non plus, ça va.
Et comment t'es venu cette idée de créer ce personnage?
Bah, j'avais déjà fait des vidéos où je faisais un peu le Michel dans des situations de vie, etc. Puis un jour, j'étais dans une salle de sport chez des potes là-bas en Normandie, là. Et je sais pas, j'ai eu une idée, je me suis dit, attends, on va faire une connerie, machin. On l'a fait sur le coup, puis on a vu que les gens, y a une bonne réaction. Puis on en a refait une, deux, trois, quatre, et puis voilà.
Waouh.
Mais c'est marrant, quoi. On l'a fait vraiment sur un coup de tête, hein.
Et t'as d'autres vidéos qui sont beaucoup plus produites, un peu plus anciennes sur ton feed, si vous remontez un petit peu, où tu joues carrément, bah, t'as un de tes camarades qui joue Jérémy.
Ah, Jérémy, Yvan Aubron, formidable. Il est très con, hein. Il est formidable.
Qui est, pour le coup, toi tu dis que t'es pas un acteur, mais lui, pour le coup, c'est son métier, quoi.
Bah, lui, c'est son métier, c'est un mec qui joue dans Planqueur, sur Netflix.
Ouais.
Qui a été dans la troupe de Pierre Palmade pendant longtemps, avec Isabelle Nanty. Non, c'est un acteur qui est confirmé, c'est un super mec.
Alors, je vous invite à regarder tous et toutes deux vidéos en particulier avec ce fameux
Jérémy.
Donc, la première où Jérémy Michel est donc en colocation avec Jérémy qui a 983 abonnés qui se prend pour un influenceur.
Ouais, qui se font abattre, c'est un peu les codes d'aujourd'hui, quoi. C'est un peu le défaut de la société actuelle, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on ressent le besoin de montrer tout ce qu'on fait.
Mmh.
Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'oublie de vivre, carrément. Moi, je vois des gens, même des fois, ils sont au restaurant, puis ils se regardent pas dans les yeux. Ils répondent, ouais. Ils cinquent le téléphone, c'est terrible. Tu vois, j'ai vu des mecs, moi, se filmer quand ils donnaient de l'argent à des clochards.
Oui, donc ça vient de là.
Ça m'a choqué, tu vois. Je me suis dit, comment tu peux faire le bien et t'es filmé pendant que tu fais le bien? Qu'est-ce que tu attends?
Alors,
tu
veux le buzz?
Ouais, mais c'est ça, mais tu veux qu'on dise quoi? Que t'es une bonne personne, que t'as un bon cœur, tu vois, t'es une merde. Quand tu fais les choses comme ça, tu les fais pour toi. Pour la personne qui est par terre.
Il n'y a pas de bien.
Ouais, pour la personne qui est par terre et qui est dans la gueule. Et puis tu le fais pour. Tu fais pas ça pour montrer aux autres que t'es une bonne personne. Ça, c'est insupportable. Moi, je trouve que cette société, elle est. Ça fait partie des dérives des réseaux sociaux, quoi. Tu vois, c'est un truc. C'est limite une maladie, hein. C'est comme. Il faut montrer tout ce qu'on fait. T'achètes une paire de chaussures, tu montes ta paire de pompes. Tu vois, là, c'est le ramadan. Il y en a qui filment leur bouffe. Tu vois, mais tu te dis, mais attends, frérot. Pense aux gens qui sont à l'autre bout de la terre, qui peuvent pas manger. À l'heure de la coupure, qu'ils peuvent pas manger. Enfin, tu te rends compte? Enfin, tu sais, on est dans une société où. Puis il y a beaucoup de haine. Tout le monde se juge, tout le monde se parle sur les réseaux sociaux. C'est waouh!
On va en parler après parce que.
C'est formidable.
Tu as fait notamment une vidéo de rassemblement qui a été très très bien accueillie. J'ai trouvé ça. Ouais. J'ai trouvé que c'était cool. On en reparlera un petit peu après.
Ok.
Actuellement, ton métier, c'est pas d'être acteur. Tu dis que tu fais un autre métier.
Ouais. Je sais pas si tu veux. Je fais de l'achat-revente dans les produits de luxe.
Voilà.
Donc, sac à main, montre.
Donc ça, c'est ton métier,
c'est mon métier
pour gagner ton argent.
Voilà, ça, c'est mon métier.
Et puis à côté de ça, tu fais ce truc-là et t'es un peu en train de rentrer dans...
Bah, je m'amuse, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment... je m'amuse. Moi, j'ai fait des cours de théâtre, etc. Mais après, tout ce qu'on me proposait, les castings et machin...
Mais ça te plaisait pas trop de rentrer dans le jeu?
Il faut jouer le vigile, il faut jouer le grand débile. Enfin, toi, c'est des trucs, bon, ils sont gentils, les mecs, mais bon...
Là, au moins, t'as créé ton personnage.
Voilà, je pense que oui. En plus, moi, je suis assez... J'aime bien faire les choses par moi-même, tu vois.
Ouais.
Même aller à un casting, ça me met mal à l'aise. Parce qu'il faut plaire à un mec pour qu'il te dise, ah ouais, il est super. Enfin, ça me rend mal à l'aise. Moi, je suis là devant lui comme un con. Oui, ça te plaît.
Bon, la première question qu'on pose, je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être un mec?
Alors, être un mec, c'est dans quel domaine tu parles? Dans la vie en général?
Ce que tu veux.
Moi, être un mec, c'est respecter tout le monde, c'est s'occuper de ses enfants. Si t'as une femme que t'aimes, la garder le plus longtemps possible, toute ta vie. Tu vois, moi, je suis marié depuis que j'ai 18 ans.
Ah oui, j'ai vu que t'avais mis dans t'as changé ta bio, là. T'as mis que t'étais marié parce que t'as des propositions.
Faut préciser certaines choses, c'est important. Mais,
t'as du succès auprès des...
Non, même pas. Moi, j'ai un public quand même assez masculin. Oui. Hein, franchement, j'ai 91% de mecs. Hein.
Oh, ok.
Donc là, vraiment, c'est pas le thème. Hein. Mais, tu vois, être un homme, moi, c'est respecter les gens avant tout. Moi, je pense que c'est ça, bien s'occuper de ses enfants. Être un homme de famille, un père de famille, c'est le plus important pour un homme. Pour moi, hein. C'est ce qui définit un homme, comment se comporter aussi avec ses amis. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent frérot, mon frérot. Et bon, le jour où t'as un problème, il se met en avion, le fumier, tu vois. Donc pour moi, être un vrai mec, c'est être un bon ami, un bon papa et respecter les gens, peu importe la couleur de peau, l'origine, la croyance, la tenue vestimentaire, du moment qu'il ne te nuit pas dans ta vie personnelle, c'est ça être un mec pour moi.
Ok, donc t'es papa ?
Ouais.
Un petit garçon, c'est ça ?
Un petit garçon de 7 ans, ouais.
Ok, on en reparlera peut-être un peu après si tu veux.
Bien sûr.
Comment t'as grandi toi en tant que petit mec ? T'avais déjà ces valeurs-là ?
Moi j'ai grandi, j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir grandir dans différents environnements. Moi j'ai grandi au quartier, j'ai grandi dans des grandes maisons, après j'ai été placé dans des internats, après j'ai été dans des petites familles d'accueil, après j'ai été dans les trucs sportifs, dans les machins. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir rencontrer tout type de personnes dans différents environnements. Et ça a été une grande richesse pour moi ça. Tu vois aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans mon quotidien, je suis aussi bien à l'aise à la Courneuve que dans le 16e avec des bobos qui pleurent pour un spectacle de danse. Tu vois, je suis vraiment... Il y a du bon partout, voilà, j'ai grandi comme ça avec tout le monde moi.
Ça devient d'où exactement cette vie un peu éparse?
C'est mes parents aussi qui ont divorcé très tôt. Mm-hmm. Pas mal de problèmes aussi familiaux, etc., qui ont fait que moi j'ai été un peu à droite à gauche. Mais non, c'est une richesse pour moi. Tu sais, quand t'es petit, c'est un peu dur, etc., mais c'est, il faut prendre toujours ce qu'il y a de bon. Il y a du bon même dans les mauvaises situations.
Et t'avais déjà... qui c'est qui t'a inculqué ces valeurs, justement, de respect? Parce que c'est pas forcément ce qu'on inculque à tous les gars.
Bah, c'est la vie. Tu vois, moi, je me suis fait vraiment un peu tout seul, tu vois. C'est des rencontres, c'est des gens qui te font grandir aussi psychologiquement, qui t'apprennent certaines choses. C'est les leçons que la vie te donne aussi, tu vois. Moi, j'ai une maman qui était très excessive aussi, dans la générosité, dans plein de choses, tu vois, qui m'a appris plein de choses. J'ai un père qui est un peu plus renfermé, donc j'ai pris un peu des deux. Après, je me suis fait ma propre opinion de la vie tout seul aussi. Hein.
Ok. Tu racontais que tu avais été en internat ?
Ouais.
Comment ça s'est passé, cette expérience ?
C'était formidable.
Ouais.
Ouais, bah j'étais. C'était même pas un internat, c'était là où on plaçait les jeunes les jeunes un peu difficiles, tu vois.
T'étais un jeune difficile alors ?
Ouais, ouais.
Vas-y, on peut en parler.
Ouais, à l'école, j'étais con comme une huître, ouais. Je faisais que des conneries. Des conneries, j'étais viré de trucs, de établissements, donc j'étais placé là-bas. Et c'était marrant, c'était une bonne expérience. Tu te retrouves avec des gamins qui ont un peu les mêmes soucis que toi, puis tu rigoles, quoi. Moi, j'ai vu des gens, des cassos incroyables.
Qu'est-ce qui faisait que t'avais du mal à être dans l'école ?
J'ai jamais été scolaire, moi. J'étais vraiment une grande buse, hein. Vraiment. Pas facile. Hein. Donc, mais moi, j'y allais pour faire des conneries, rigoler avec mes potes. C'était ça, quoi, l'école.
Et t'y allais pas pour... Mais tu t'emmerdais les autres, ou...
Non, moi, j'étais...
C'était un bon gars ?
Moi, je rigole avec tout le monde, tu vois, voilà. Mais j'ai jamais été scolaire, enfin, c'est comme je dis à mon fils, si tu travailles à l'école, c'est bien. T'as des bonnes notes, tant mieux, mais c'est pas ce qui fera de toi un homme ou ce qui va te faire toi réussir ta vie, tu comprends? Moi, je connais des mecs qui ont 20 sur 20 de moyenne, qui ont fait des grandes études, mais qui sont cons comme des bites, hein. Tu sais, qui ont aucune connaissance de la vie, qui sont insupportables. Parce que moi, l'intelligence, pour moi, c'est connaître la vie. C'est s'adapter aux gens, c'est comprendre les situations. C'est ça, l'intelligence. C'est pas savoir combien font, 80 divisé par 8,3, bon, on s'en branle, tu vois, c'est bien, mais c'est pas ce qui fait de toi un bonhomme, quoi.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Comment t'as... Parce que t'as l'air de raconter que t'as eu un parcours un peu sinueux. On peut en parler, hein, si tu veux.
Ouais,
bon, on a
un
le
parcours
temps,
un peu atypique. Ouais, ouais, c'était
atypique.
Bah, atypique, parce que j'ai fait du sport...
T'étais quoi ? T'étais en études de sport ou...
Basket, ouais.
Ok.
Ouais. Après, le sport, ça s'est arrêté pour des raisons de blessures et des raisons personnelles. Après, j'ai basculé dans un autre milieu où j'ai essayé de faire mes propres choses tout seul, où c'était des choses un peu particulières. Après, j'ai monté ma société.
Particulière ?
Ouais, bah, oui, bon, après, c'est la vie. Hein.
Tu veux dire un peu illégal ?
Oh non, je sais pas. Comme tu y vas. Non, non.
Moi, je sais pas.
Mais non, j'ai essayé de faire mon petit bonhomme de chemin comme ça.
Ok.
Tu vois, j'ai fait des rencontres après qui m'ont canalisé. Ma femme m'a beaucoup aidé aussi.
Ouais.
C'est pour ça qu'une femme, c'est très important pour un homme, quoi. Elle m'a canalisé sur plein de trucs. Elle a été très, vraiment bénéfique pour moi, dans ma vie.
Comment t'as évolué dans le sport ?
Pff, dans le sport, bon, moi j'étais talentueux dans le sport, mais j'étais un branleur fini, tu vois,
catastrophique. Ah, je vois le genre.
Ouais, non, mais j'étais catastrophique. Ouais.
Parce qu'il y avait moyen de, il y avait moyen que tu fasses une bonne carrière.
Ouais, dans le basket, ouais, j'étais pro à 18 ans.
Monsieur.
Bon, comme tu vois. Mais j'aurais pu faire une carrière un peu plus conséquente, mais j'étais complètement indiscipliné, aucune hygiène de vie, complètement dégueulasse, quoi.
Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené dans le sport alors?
C'était la jeunesse, hein. Ouais. Je faisais ça, du basket dehors, après je faisais du foot, machin. Mais bon, au basket, j'avais plus de facilité. Donc voilà,
c'est plus simple quand tu mesures presque 2 mètres en général au basket.
Ouais, mais c'est même pas. Ouais, non, mais c'était le basket, moi, c'était plus un moyen d'être avec mes potes, de rigoler. Je n'avais pas d'ambition de faire. Tout le monde était là dans les centres de formation. Je vais être pro. Moi, c'était vraiment le dingue de mes soucis, quoi.
Mais alors, tu voulais faire quoi?
Bah, passer le temps, m'amuser avec mes potes.
Ouais,
j'ai jamais eu d'objectif dans le sport, tu vois.
Ok.
C'est pas un truc qui me fait rêver, quoi.
Mais même aujourd'hui, là, tu vois, t'étais un peu en train de percer dans un domaine qui a l'air de te plaire, tu vois.
Ouais.
J'ai pas l'impression que ça te...
Ouais, la vie, de toute façon, demain, imagine, demain, on me filme en train de je sais pas quoi, ils vont dire, ah, c'est un enculé. Tu vois, donc, c'est la société actuelle, il faut vraiment pas s'enflammer, hein. Ah, il est super, le breton, non, super. Et puis le lendemain, il me voit, machin, un truc, quel enculé, raclure, fini, tu vois. C'est
donc tu fais en sorte que ce soit plus...
Ouais, franchement, je m'amuse et puis après le reste, je m'en branle complètement, quoi. Je m'amuse, tu vois, c'est marrant, sans objectif particulier, quoi.
Ok, d'accord.
Je me dis pas, je vais faire le buzz, je vais faire une vidéo, je m'en fous. Tu vois. Du moment que ça plaît aux gens, que les gens rigolent, qu'on s'amuse, j'ai une communauté qui est super. Tu vois, j'ai que des messages bienveillants, ouais. D'humour, de machin, ça me plaît, tu vois. Ça me suffit, moi.
Oui, parce que tu... Est-ce que tu crois qu'en fait le fait de jouer un grand bonhomme, un grand con comme ça,
ouais.
Ça fonctionne?
Bah, ça fonctionne pour moi dans le sens où ça me permet de dire certaines choses. Mm. Tu vois, par exemple, quand je fais une vidéo pour le Ramadan,
ouais.
Je le dis avec... je fais passer un message quand même aussi. Mais comme c'est un personnage qui dit un peu tout, bah, si tu veux, les gens sont pas... ils disent, oh, c'est bien ce qu'il... Ils sont pas choqués. Même je peux faire demain l'accent africain, l'accent rebeu, machin... Ils savent très bien. Moi, ils savent très bien que c'est de l'humour et que c'est du second degré. Tu comprends? Un personnage comme ça, ça te permet de tout dire, et c'est important parce qu'on est dans une société où on peut plus rien dire. On peut plus rien dire aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut être noir, pas parler des noirs. Il faut être musulman, pas parler des musulmans. Il faut être juif, faut parler des juifs. Quelle époque de merde, tu vois?
Ah, t'es vraiment là-dedans, toi?
Bah ouais, parce que moi, je trouve qu'on est un pays qui est formidable pour ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une mixité sociale qui est formidable, et on n'a jamais été aussi divisé que maintenant. On s'en rend même pas compte, hein, mais on est très très divisé. C'est-à-dire que demain, il suffit qu'un humoriste fasse une blague sur, je sais pas moi, les rebeux, machin. Oh, l'enculé, oh, la raclure. Tu vois, c'est... On est, moi, j'ai grandi avec les inconnus.
Oui.
Tu vois, j'ai grandi avec des codes comme ça, tu comprends? Moi, je pense qu'on peut tout dire, on peut tout faire, tant qu'il y a de la bienveillance et qu'il y a de l'amour derrière, tu comprends? Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup, par exemple, de gens qui abordent des sujets sans connaître le fond. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont faire des trucs sur les musulmans, mais ils connaissent pas l'islam, ils connaissent pas les musulmans. Donc, c'est-à-dire qu'ils font des trucs très maladroits. Et les gens le prennent très très mal parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent, tu comprends? Bon, moi j'aborde un sujet que je connais quand même un minimum, et je sais, tout ce que je fais, je le fais avec amour, avec bienveillance, pour justement réconcilier les gens avec les uns avec les autres, tu vois. Moi mon rêve, c'est qu'un breton, un tchétchène, un athée, un portugais, un chinois, ils mangent ensemble à table et qu'ils se rendent compte qu'ils ont des points communs.
D'être humain, déjà.
Mais c'est, si tu veux, on est dans une société où on cherche tout pour nous séparer et rien pour nous rassembler, alors qu'on est tous pareils finalement. On a peut-être des croyances, des envies différentes, mais à la finale, on veut tous rentrer chez soi, être tranquille, s'occuper de sa famille, bien dormir, bien manger, c'est ça. Mais on fait de nous des êtres différents, alors que pas du tout.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Ça devient d'où, justement, cette envie de... Et en fait, tu parles régulièrement de l'islam, en plus, dans tes, mm-hmm. dans tes vidéos. Ça devient d'où, cette culture, toi?
Moi, j'ai grandi avec beaucoup de maîtres de quartier, des Renois, des Rebeux. L'islam, ça fait partie de mon quotidien, tu vois. Comme j'ai grandi avec des beaufs qui s'éclatent sur du Patrick Sébastien et qui montent leurs couilles à la fin du repas. Hein, donc, c'est vraiment...
C'est un grand cercle.
Oui, non, mais c'est un grand prisme que je maîtrise très bien. Mais tu vois, par exemple, les musulmans de France aujourd'hui se font. On s'acharne sur eux, alors que c'est des Français. Mm-hmm. Tu vois, moi, quand je défends. On me dit, tu défends les musulmans dans des vidéos. Non, non, je défends pas des musulmans, je défends des Français. Mm-hmm. Tu comprends ? Ouais. Qu'ils soient athées, tout ça, je m'en branle. Je défends des Français, des gens qui vivent sur notre sol, qui sont nés ici. Et on en fait des étrangers par le comportement. Parce que comment veux-tu qu'un musulman. Qui soit algérien, marocain, mais qui est français, se sentent chez lui aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ?
Bah ouais, c'est sûr.
Mec, il allume la télé, il se fait cracher à la gueule. Oui, les musulmans, les zones de non-droit, les femmes voilées, les piscines, les machins, les trucs. Mais attends, le mec, ils y veulent pas de moi, ils sont méchants. Donc, automatiquement, ils vont se séparer, tu vois, du pays. Mentalement, tu vois, ils vont rentrer toi, dans une espèce de conflit, c'est normal. On leur chie à la gueule.
Bah ouais.
Tu vois ? C'est
et
pas
toi,
normal.
Et toi, t'as inventé Michel Venom aussi pour ça ? Ou à la
base ? J'ai inventé, ouais, Michel Venom pour faire passer des messages, ouais. Pour montrer que les musulmans... moi, je ramène un Tchétchène dans mes vidéos qui est un ami, tu vois, un très bon ami à moi qui est comme mon frère.
Ils jouent tous tellement bien, tous tes potes, là.
Et ben, tu vois, lui, bon, tu dis un Tchétchène, barbe rousse, mâchoire en avant, regard vitreux, ils vont tous se chier dessus, ils vont dire, c'est qui ce mec, c'est un danger, oh non. Et il le voit sur la vidéo, il le voit différemment, tu comprends ? Parce que le mec, il a une apparence physique, mais c'est un amour, le mec, tu vois, c'est un mec extraordinaire, de générosité, de gentillesse, tu vois. Et si je peux montrer... ce visage-là plutôt que celui qui est sur BFM TV dans des médias complètement dégueulasses comme ça, bah ça c'est déjà une victoire.
Ouais, j'allais te dire peut-être aussi qu'il faut arrêter de regarder ces médias à la con, quoi, tu vois, mais bon, ils existent, hein, ils sont là.
Mais ils existent, mais après c'est vrai qu'ils se rendent pas compte du mal qu'ils font. Moi personnellement, après tout le monde me dit, bah tu regardes pas, machin, oui, mais c'est facile à dire, mais par exemple moi je te parle de ma grand-mère qui est au fin fond du Finistère par exemple, elle voit un truc sur les musulmans, le lendemain elle voit un barbu au marché, elle part en courant, tu vois, elle se dit, putain, mais oui, parce que ça a des conséquences indirectement. Tu vois, nous, on est là, confrontés à la vie de tous les jours, dans des grandes capitales, des grandes villes. On connaît un peu la vie, donc voilà. Mais tu vas dans les provinces, c'est ça la vraie France. C'est quand tu vas dans le Finistère, dans les Pays Basques, dans le Nord-Pas-de-Calais, tu vois, dans les villes, dans les régions comme ça.
On parlait de Roubaix tout à l'heure.
De Roubaix, ouais. Roubaix. Super ville.
Roubaix, on dit Roubaix. Hein,
Roubaix,
si tu, si
ouais,
tu veux.
Roubaix.
Ouais, pas Roubaix.
Le Schnorr. Et bah, tu vois, ces gens-là, ça a des conséquences sur eux indirectement. Mm. Ça donne une image qui n'est pas la vraie. Ça, c'est pas normal. Ça me révolte un peu, ouais.
Pour rebondir un peu sur... Tout à l'heure, tu disais que tu t'étais marié à 18 ans ?
Ouais.
T'as rencontré ta meuf à l'époque ?
Ouais, j'ai rencontré ma femme qui est la mère de mes enfants aujourd'hui. Et,
ok.
Et avec laquelle je suis depuis maintenant, ça va faire presque 14 ans.
Ok. Comment tu la rencontres ?
En centre de rééducation, pour les genoux.
Ok.
Je m'étais blessé au genou.
Tu t'es pété un genou ?
Et puis je l'ai rencontré là-bas. Et puis on ne s'est plus jamais quitté. Voilà.
Ok. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure qu'elle t'avait un peu appris à...
Elle m'a appris la vie dans plein de choses.
À canaliser...
Ouais, mais dans plein de choses, tu vois, parce qu'elle est un peu plus âgée que moi. Et elle a une connaissance de la vie, forcément. Puis tu sais, les femmes sont hyper importantes pour un homme. Tu sais, si ta femme est mauvaise chez toi, ta vie, c'est de la merde. Hein. T'es pas bien. Tu vois des mecs, ils s'embrouillent avec leurs gonzesses, c'est des fantômes en soirée. Hein, tu vois, ils sont sur le télé... C'est, ça perturbe une femme, tu vois. Et quand ta femme, elle est là pour ton bien et qu'elle, ça te transforme, c'est hyper important, une femme.
Mais c'est, tu choisis, en fait, après, t'es pas obligé de choisir une femme qui est nocive pour toi. Toi, t'as, par exemple, choisi une personne qui était cool pour toi. Qu'est-ce qui fait que t'as eu envie d'aller vers cette femme à ce moment-là?
Bah, sa gentillesse, la tendresse qu'elle avait dans le regard, tu vois. Moi, j'étais malade, sous morphine, machin, elle venait m'apporter mon repas. Tu vois, elle était très, elle est très, très gentille. C'est vrai, en plus, parce que c'est ma femme, mais c'est vrai qu'elle est gentille, tu vois, elle s'occupe de personnes handicapées, etc. Et c'est une dame qui a le cœur sur la main, c'est ma petite femme, quoi. Donc voilà.
Comment tu dis que... Est-ce que t'as la sensation qu'est-ce qu'elle t'a appris, en fait, tu vois?
Elle m'a appris plein de choses. Elle m'a appris le respect, elle m'a appris à me respecter moi-même aussi sur certains trucs que je pouvais faire avant. Bah ouais, parce que
tu dis pas tout, en fait.
Non, mais je peux pas.
Tu peux pas?
Mais des trucs, voilà, elle m'a appris aussi à avoir une certaine dignité d'homme, tu vois.
Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux
pas? Non, parce que c'est des conneries que j'ai fait quand j'étais plus jeune, et puis voilà.
Mais ça t'a construit?
Ça m'a construit, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est des trucs, voilà.
T'as pas envie de le dire publiquement, c'est ça?
Ouais, c'est des petites conneries que beaucoup d'hommes font, tu vois. Soit de voler, que ce soit de... faire de l'argent pour en se débrouillant, des trucs un peu comme ça, où tu penses que t'es dans un truc, mais en fait tu fais de la merde, tu vois. Et elle m'a appris justement à penser à être digne, à être un homme, tu vois. C'est ça aussi, être un homme, c'est rendre fier sa femme. Elle m'a appris plein de choses sur ça.
c'est elle qui t'a fait basculer un peu dans les valeurs là dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais, bah c'est, tu vois, ma femme par exemple, elle n'a rien à voir avec moi sur le plan psychologique. On est totalement différents. Moi, je suis très con. J'aime bien faire des conneries, machin, truc. Elle est très calme, très posée, très structurée. Donc ça fait qu'elle m'apprend plein de choses sur ça aussi. Tu vois, elle me canalise sur plein de trucs. Donc elle en est pour beaucoup.
Ok. Parce que j'ai la sensation que comme tu disais, t'as grandi un peu. Enfin, c'était compliqué pour toi d'être un petit mec quand t'étais plus jeune.
En fait, si tu veux, quand t'es un garçon, t'es confronté à plein de choses. Moi, j'ai été confronté à une adolescence, une vie de jeune garçon pas évidente, que ce soit sur le plan affection, émotif, tu vois, très perturbé. Mais ouais, t'es un petit garçon, c'est pas. T'as des blessures quand t'es petit garçon, elles sont toujours là quand t'es plus grand. C'est hyper petit garçon, tu le restes toute ta vie. Hein.
C'est quoi les blessures que t'as eues?
Ouais, des blessures affectueuses, enfin, tu sais, avec les parents, des trucs un peu, tu vois, des trucs qui se répareront jamais finalement, mais c'est des.
Mais qui te construisent aussi, non?
Qui te construisent aussi, c'est pour ça qu'il faut pas voir que le négatif, faut arrêter de se plaindre. De toute façon, il y a toujours pire dans la vie. Hein. On se plaint là, mais bon. Si tu vas dans les pays difficiles où les gamins ils crèvent la dalle, tu vois, c'est où il y a la guerre, tu vois.
Ouais, mais tu sais, l'un des trucs que les mecs font beaucoup, justement, c'est qu'ils disent bah, il y a toujours pire, tu vois. Alors qu'en fait, ça t'empêche un peu de regarder ta situation. Il y a vraiment beaucoup de mecs, tu vois, qui sont dans ce truc de bah, en fait, il y a pire que moi, donc je vais pas me plaindre.
Bah, en fait,
donc tu serres les fesses et tu y vas et tu.
Bah, après, c'est ça aussi, être un homme, c'est de passer au-dessus certaines choses. Moi, j'ai accepté ça. Je vis avec, ça fait partie de mon quotidien, tu vois. Je vis avec ces blessures-là toute ma vie. Tu vois, des fois, je suis tout seul dans mon lit, je pleure par rapport à certaines choses.
C'est vrai?
Ouais.
Encore aujourd'hui?
Ouais, bien sûr.
Tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle les psys?
Ouais, non, mais mes psys, j'en ai vu petit, moi.
Ouais.
Ouais, j'en ai vu plein, mais voilà. Moi, je pense que je remercie Dieu parce que j'ai une vie magnifique aujourd'hui, tu vois. Je gagne bien ma vie, je suis en bonne santé. J'ai une femme, des enfants, je fais ce qui me plaît. Bon, voilà, tu vois, c'est faut se concentrer sur ça.
Mais t'as conscience quand même que pleurer tout seul dans son lit, c'est pas comme...
Mais beaucoup d'hommes hein, pleurent tout seul dans leur lit. Hein.
Ouais, parce qu'en fait, tu sais, c'est comme si t'avais une rage dedans et que tu la guérissais pas.
Non, mais des fois, tu peux avoir des trucs où tu te... Après, tu sais, chez les hommes, c'est tabou de dire que tu pleures. Moi, j'en ai rien à branler, tu vois. Bon, c'est pas parce que je pleure que je suis quelqu'un de faible ou pas du tout, tu vois, au contraire. Mais moi, je pleure jamais devant les gens.
Ouais.
C'est quelque chose, tu vois.
Devant tes potes et tout.
Oh non, jamais, non, non.
Pourquoi tu ris?
Jamais, tu vois. Mais
les meufs entre elles pleurent.
Ouais. Mais
pourquoi on n'arrive pas à pleurer, nous, en tant que mec?
Bah, c'est comme ça. Hein.
Non, c'est pas comme ça.
C'est dans les codes. Après, moi, j'ai des potes qui pleurent devant moi. Hein.
Ouais.
Mais tu sais, des fois, t'es chez toi, tu repenses certaines choses, ça arrive, tu vois. Il y a plein d'hommes qui sont. Qui ont cette. Ce visage à la maison où ils sont un peu tristes, ils repensent à certaines choses, ça dure 10 secondes et ça passe, tu vois. Mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Hein. Pas...
Mais donc, pas de psy, quoi.
Non.
C'est un vrai problème, tu sais, chez les mecs, de pas...
Oh non, mais moi, si j'avais besoin, j'irais voir un psy. Hein.
Ok.
Alors là, tu vois, si je me sens pas bien, je vais parler à quelqu'un. Bon,
ok.
Tu vois, c'est pas du tout ça qui me dérange, mais c'est que tout va bien, finalement. C'est pas parce que je pleure 10 secondes une fois tous les 6 mois que je vais mal, tu vois, c'est pas...
Ok. Oui, c'est pas courant.
Non, c'est vraiment... Ah non, je suis pas dépressif, non.
Non, mais je sais pas, tu sais, comme tu le présentais.
Le grand névrosé, non, tout va bien. Non, mais ça arrive de temps en temps, c'est comme ça, ouais.
Est-ce que finalement, ce Michel Venom n'est pas un masque que tu mets, hein?
Ouais, Michel, ouais, Michel, il est formidable. Ouais. Non, Michel, c'est vraiment le... C'est un personnage qui me plaît, parce que on en connaît tous un, Michel. C'est un espèce de beauf abominable, comme ça, tu sais. Une grande gueule, mais à la finale, il a pas mauvais fond, le mec.
Au grand cœur, en plus.
Ouais, il est pas méchant, ouais. Il protège les gros, il souhaite bon ramadan à tous les musulmans. Non, c'est un mec compréhensif, le Michel. Bon, après, il a son franc-parler, c'est un beauf, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le juger.
Il y a un autre truc aussi qui m'a marqué dans tes vidéos, c'est la violence.
Ouais.
T'as des trucs où bah, tu mets des claques, quoi.
J'en prends aussi.
Ou t'en prends. Ouais, et t'en prends également. D'ailleurs, magnifique cascade hein, en permanence.
Ah, mais j'en prends pour des vrais, hein. C'est des vrais. Hein.
C'est des vrais claques.
Ah, oui, bien sûr, ouais.
C'est des trucs qui tu peux jouer et tout, tu vois.
Non, mais c'est mieux réel.
C'est mieux de prendre.
C'est mieux. C'est... ouais.
Et puis t'as notamment une vidéo. Je sais pas d'où sort cette vidéo où tu vas casser la gueule d'un.
Dans un bar.
Dans un bar, oui.
Alors ça, c'est un film que j'ai tourné sur Arte.
Ok.
Où je joue le rôle d'un converti. C'est une comédie qui est sortie sur Arte avec mon ami Sylvain, avec Zangro.
Ok.
Et c'est un film qu'on a sorti sur Arte où je joue le rôle d'un converti qui vient de se convertir, tu vois.
Se convertir
à l'islam, ouais. Okay. Et tu sais qui vient de rentrer dedans et qui veut aller plus vite que tout le monde, tu sais qui en fait des caisses, qui est un peu maladroit, qui est un peu bourrin, mais qui est très gentil, tu vois. C'est souvent aussi le problème de pas mal de gens dans ce cas-là où tu sais ils veulent griller les étapes et puis du coup ils oublient certaines choses, tu vois. Mais la finale c'est un message d'amour de parce que le mec est un très bon cœur, tu vois.
Oui. Bah avant ça,
avant ça, faut pas le taquiner.
Avant ça, il est bagarre.
Il a la châtaigne facile. Ouais.
Pourquoi ça a fait partie de la violence? Ça a fait partie de ta vie la violence?
Ouais. Bah oui, ouais. Ça a fait partie de mon quotidien pendant très longtemps. Ouais. En étant petit, enfant, ouais.
Tu veux dire que tu te castagnais, t'avais besoin de canaliser ta colère?
Ouais, je me bagarrais très souvent à l'école. J'avais mes parents aussi qui se disputaient très souvent. Donc non, c'est quelque chose qui a fait partie de mon quotidien, la violence. Ouais.
Ok. Aujourd'hui, comment tu la gères, la violence?
Non, moi je suis pas violent. Je suis pas quelqu'un de violent. Non, je trouve que la violence c'est vraiment le dernier recours. Puis c'est tellement facile d'être violent. C'est un signe de faiblesse, la violence. Frapper quelqu'un, être méchant. Enfin, c'est tellement. Moi aujourd'hui, je discute. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je discute. Toi là, il y a un mec qui m'a insulté sur Facebook, sur Instagram et sur un autre truc. Et en fait, ce mec, il est de ma ville. Enfin, il est de la ville où je vais tout le temps, Évreux. Donc, du coup, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Je lui ai dit, viens, on s'appelle, machin. Et j'ai pas été violent avec lui, j'ai parlé avec lui. Alors qu'il me traite de fils de pute, machin.
Mais pourquoi il te traite de fils de pute?
Parce qu'il est con comme une huître. Il est là, il envoie des grands trucs. Je l'appelle au téléphone, il me dit, ah non, c'est pas méchant. Je dis, bah, fils de pute, quand même.
C'est pas très sympa.
On est quand même à la limite de l'insulte, là, non? Je sais pas ce que t'en penses, Bruno, mais. On frôle la limite de l'insolence, là.
Et donc, une fois qu'il t'a eu au téléphone, après...
Très gentil, non, super, un amour. Hein.
C'est souvent un truc qu'il faut faire, c'est que je crois qu'il faut aller confronter les gens...
Surtout que c'est un mec de ma ville, tu vois, encore, ce serait un mec, je sais pas, je le connais pas, mais c'est un mec de ma ville, tu vois, bon, il est con, quoi, lui, tu vois.
Tu peux aller toquer à sa porte, quoi.
Ouais, mais bon, de toute façon, s'il avait répondu de manière un peu plus brusque, on serait parti se voir, tu vois, mais discuter toujours, mais t'es très gentil.
Pourquoi tu mets de cette là comment tu utilises la violence dans tes vidéos?
Bah je pense que mettre une tarte à quelqu'un ça c'est comme Jérémy quand il fait l'instagrammeur, on a toute la population envie de le baffer ce mec là.
Jérémy IE d'ailleurs.
Un IE, c'est important.
C'est très important.
Très important, ouais. Mais tout le monde a envie de le gifler.
Pourquoi Jérémy IE?
Je sais pas, écoute, peut-être pour le côté un peu féminin. Hein. Ouais. Non mais tout le monde a envie de gifler un mec comme ça.
Ouais.
Un mec qui a 900 abonnés, qui se prend pour Nabila, qui fait des pubs pour des crèmes alors que tout le monde s'en branle, qui filme sa bouffe quand il mange. Ben, tu vois, on a tous été un peu agacés par un genre de personne. Tu vois, donc lui mettre une tarte dans la gueule, ça fait du bien.
Il y a un côté exutoire.
Ça fait du bien, ouais. C'est tout que je mets pour de vrai à chaque fois. Ça fait du bien, vraiment. Ça défoule. Avec sa petite tête. oui.
Comment t'en es venu à faire de la muscu? Fais vraiment de la muscu ou?
Ouais, mais de manière, j'en fais une fois, deux fois par semaine, tu vois.
Bah c'est.
Ouais, enfin, bah,
c'est bien.
5-6 fois comme des barges. Moi, ouais, vraiment, bon. C'est vraiment une fois ou deux. Bah, moi, je cours, je fais ma petite traction, ma petite pompe, ça me suffit, tu vois. Mais ça fait du bien le sport. Hein.
Oui.
C'est important. Hein.
Pourquoi t'as fait du sport?
Moi j'ai fait du sport à la base pour être avec des potes, mais après le sport ça devient une espèce de drogue aussi, tu vois, ça fait du bien, ça défoule, tu vois, moi quand je vais pas bien ou j'ai envie de penser à autre chose, je suis tendu, je vais faire un footing, tu vois, ça fait du bien, ça détend le sport, c'est important. Ah, sans sport c'est dur. Hein.
Qu'est-ce qui se passe sans sport?
Ah bah t'es tendu, tu te fais chier, t'es nerveux, moi c'est comme ça en tout cas, moi je suis nerveux, je suis tendu, je suis pas bien, tu vois, j'ai besoin de faire du sport.
Ok, ça canalise un peu?
Ouais. Que ce soit sur un balcon, dehors, dans un gymnase, j'ai besoin de faire du sport. C'est important.
Ok. Parce que quand tu dis que tu fais pas beaucoup de muscu, quand même, si tu vas deux fois par semaine, c'est déjà bien.
Oui, c'est bien. Bah, après, moi je te parle de gens, moi je connais des mecs qui vont 7 fois par semaine, hein, qui sont complètement accros, ils ratent un jour, il est pas bien. Ça perturbe aussi la muscu, tu vois, des grands perturbés. Hein.
Tu veux dire dans le rapport que t'as à ton image, c'est ça?
Non, même pas, moi je m'en branle complètement.
Hein. Non, pas de toi, mais de par exemple les autres gars. Toi, j'ai bien vu que tu remontais ton short à fond la caisse.
Ouais, je m'en fous. Alors là.
Mais en attendant, t'es quand même dans ces codes-là, tu vois. Hyper malaise.
Oui, c'est marrant parce que c'est voilà, mais non, moi la muscu, tout ça, c'est pas un truc qui me. J'aime bien, mais c'est pas non plus. Tu vois, je comprends pas les mecs derrière qui se regardent le nombril toute la journée. C'est insupportable, quoi. Tu vois, ils adorent ça, les mecs.
Parce que dans tes potes, là, t'en as quand même quelques-uns qui sont... Et notamment le
petit Thomas.
Le petit qui est génial, lui.
Très gentil. Bah, très bon mec, tu vois. Ça, c'est un mec que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, en Normandie, à Évreux. Et j'ai eu le feeling tout de suite avec lui parce que c'est un mec très simple. C'est vraiment quelqu'un d'ouvert, très simple. Tu sais, c'est des gens qui font du bien. Parce que c'est des gens qui sont très très simples, voilà, naturels, qui se prennent pas pour des autres, tu vois. Dans cette société justement d'apparence, de machin, de trucs. Lui, il est formidable.
Ok. Mais lui, son Insta, pour le coup, il est en mode...
ouais, bah il adore ça, lui. Hein. C'est un bodybuilder, il fait des concours. Bon, ouais, il adore ça. Ouais. Il pousse comme un âne. Ouais.
Mais pourquoi il fait ça, tu crois? Vous en avez parlé un peu?
Bah, je pense que ça lui fait du bien, c'est sa passion.
Ok.
Sa passion, tu vois, il adore.
Bah, t'as des... aussi un rapport à l'image, tu vois, qui est particulier.
Ah, il adore ça, oui, oui, bah, ils se plaisent, les mecs, hein. Ils adorent ça. Moi, personnellement, je m'en branle complètement. J'ai du bide, je mange comme un ours. Enfin, t'es vraiment. C'est pas du tout mon délire, quoi. C'est vraiment. Ça, mais c'est... Puis ça devient beaucoup de travail d'un coup, quoi.
Ouais.
C'est les mecs, tu vois, les sacrifices qu'ils font.
Je crois qu'on oublie un peu ça. C'était. Attends, tu sais que. Donc, je sais pas si t'as vu ce film Alerte à Malibu avec The Rock et,
ouais. Et The Rock, là, le mec il adore ça, il passe sa journée dans une salle de muscu, enfin tu vois, c'est son fond de commerce aussi.
Et tu sais, t'as Zac Efron dedans.
Ouais.
Et en fait Zac Efron il racontait que pour jouer ce rôle où il est ultra stock quoi.
Ouais, ouais, il a dû faire des sacrifices de
fou. Il en a chié de ouf.
Bah, attends, ouais, c'est pas évident hein, d'être bien foutu, d'être costaud. Pas évident hein. Donc moi j'ai fait le choix de vraiment faire je me maintiens sur un niveau de forme qui est le mien, je pense, avec un peu de bide, mais bon, ça va. On reste sur un truc cohérent quand même.
Ok. Ça t'a jamais vraiment donné envie de pousser un peu plus et
non,
de...
non, pas du tout. Non. Je trouve ça tellement con. Non, mais tu sais, de pousser des gros poids. C'est... Quelle connerie, putain. Après, les mecs, ils adorent ça. C'est leur passion. Moi, je respecte. Hein. Mais moi, je me vois pas du tout me mettre dans un mode où je pousse comme un âne avec des marcelles trop serrées. Non, non.
Parce que là, dans ta commune, je crois qu'il y a plein de go muscu justement.
Ouais, mais c'est bien. Mais c'est, tu sais, c'est leur passion. Donc, si moi, je respecte leur passion, c'est super ce qu'ils font. Ils sont, c'est leur sport, quoi. Tu vois, c'est un sport à part entière. Hein. C'est bodybuilding aujourd'hui, c'est un sport. Hein. Tu fais 2 semaines chez eux, tu vois, c'est compliqué. Hein. Tu rentres chez toi, t'as du mal à doucher. C'est très dur. T'as des courbatures partout. Ils pèsent ce qu'ils mangent. Ils mangent, c'est du sacrifice, quoi. Tu vois. Et je pense qu'il faut respecter ça. Ça, c'est vraiment un truc. Moi, je respecte tous les gens qui font des sacrifices, qui font du sport, qui ont une passion, tout simplement. Toi, après, si ça leur plaît, c'est le principal. Hein.
T'es un bon gars, en fait.
Bon, je sais pas, mais bon, voilà, moi, je suis vraiment. Moi, je t'ai dit, je respecte tout le monde tant que tu viens pas nuire à mon quotidien, ouais. Y a pas de problème.
Parlons du fait d'être papa.
Ouais.
Comment t'as décidé de devenir papa?
Bah, j'ai décidé, j'ai ce besoin-là, moi, depuis très jeune.
Toujours?
Ouais, moi, à 18-19 ans, moi, j'aurais pu être papa. Hein. Moi, j'étais papa très tôt, à 23 ou 24. Mais.
T'avais envie de.
Ouais, j'avais envie de donner la vie, j'avais envie d'avoir une petite partie, mon petit bonhomme, tu vois, ou ma petite fille, tu vois. Et puis c'est vrai que mon petit garçon, c'est la plus belle chose de ma vie, quoi.
Mais t'avais envie de. Parce que tu racontais que tu avais une enfance difficile et tout, tu avais envie de compenser un peu ce truc, tu crois?
Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense que c'est un truc qui fait que tu as envie de. T'as pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Toi, mon fils, moi, c'est. Voilà, c'est toute ma vie, tu vois. Il est hors de question que je reste 2-3 jours sans lui. Enfin, je suis même prêt à être malheureux pour mon fils. Toi, c'est. Je peux pas, moi. Demain, mon fils, il a besoin de mon cœur, je lui donne tout de suite.
Ça t'a fait quoi d'avoir un fiston? T'avais peur d'avoir une fille? C'est un truc chez certains mecs.
Non, pas du tout. Non, moi je comprends pas du tout ça. Alors là, c'est comme des mecs, oh, une fille, c'est compliqué. Oh, ta gueule. C'est ferme ta gueule. C'est formidable. Une fille avec un garçon, c'est extraordinaire. Une fille qui s'occupe de son papa, qui est avec son papa, c'est merveilleux. Aujourd'hui, il y a un rapport, tu sais, une fille en 2021, c'est compliqué, machin, mais qui se touffe ta gueule. C'est formidable, une fille. Tu vois,
bah, c'est sûr que c'est. Je crois que pour certains mecs. Il y a un côté, c'est un peu l'inconnu, quoi. Tu vois.
Ils sont cons, les gens. Une fille, c'est formidable. C'est gentil, c'est proche. C'est extraordinaire, une fille avec son papa. Tu vois. Moi, j'ai un rapport avec mon fils qui est extraordinaire, mais avec une fille, c'est sûrement différent. Mais c'est magnifique, les deux. Je comprends pas les gens qui disent je préfère avoir un garçon. Ferme ta gueule, frustré. Un petit con. Hein. C'est formidable. Non, mais c'est vrai. Ils imaginent, oui, ma fille va se faire draguer, elle va avoir des mecs. Oui, mais alors. Connard, ta mère c'est quoi c'est... Non, mais tu vois, les gens sont cons. Tu vois, c'est extraordinaire, une fille, un garçon, un enfant. En général, de toute façon, c'est extraordinaire. Je comprends pas les mecs qui préfèrent une fille à un garçon ou à l'inverse. C'est débile.
Comment tu l'élèves, ton môme, aujourd'hui?
Moi, je l'élève dans l'ouverture d'esprit, dans la rigolade. Voilà, moi, je fais que des conneries avec mon fils. Hein. Tu vois, c'est vraiment... Dès que ma femme a le dos tourné, on fait des conneries. Mmh. Voilà. Mais parce que ma femme s'occupe bien de la maison dans le reste, dans le sens où elle lui donne une éducation stricte sur certaines choses. Et moi, c'est le côté, j'ai le bon rôle aussi, c'est le bon côté, on rigole, on va faire du foot, des cache-cache, on se tire dessus au pistolet à billes, enfin, c'est des trucs, tu vois. On rigole, quoi. Mais j'essaie de l'éduquer aussi dans une ouverture d'esprit, c'est important.
Il a quel âge aujourd'hui?
7 ans.
7 ans. Mmh. Comment tu l'envisages ado?
Ah bah ado, je pense qu'il va nous en faire baver un petit peu, mais c'est moi je m'en fous sincèrement. Moi j'ai envie qu'il soit épanoui, mon garçon, toi, qu'il fasse du sport, qu'il ait des potes, qu'il kiffe la vie, quoi. C'est le plus important, qu'il s'amuse, tu vois. Mais toujours qu'il ait des valeurs de respect, c'est le plus important. Qu'il respecte les gens, qu'il juge pas les autres, c'est le plus important.
Ok. C'est fou parce que j'ai l'impression que t'es à la fois... en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu viens d'un... Bon, t'as l'air d'avoir eu des périodes noires, quoi, tu vois.
Ouais, complètement. Ouais.
Et en fait, j'ai du mal à voir comment t'en es venu à être aujourd'hui le mec que t'es, quoi, tu vois, à 32 balais.
Bah, c'est que j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'échecs, beaucoup de périodes difficiles, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de ratés, tu vois.
D'incompréhension de quoi?
Bah, dans plein de choses, tu vois. C'est des trucs, peut-être la vie. Moi, quand je me suis fait tout seul, dans tout ce que j'ai fait, et ben, c'est quelque chose qui fait que tu passes par plusieurs étapes. Tu te rends compte que t'en prends des chemins qui sont pas les bons, tu fais marche arrière, t'essayes celui-là, c'est pas bon, t'essayes celui-là, c'est, ah si, peut-être, ah oui, c'est pas mal. Tu persévères, finalement c'est pas bon, après t'en fais d'autres, c'est comme ça la vie, tu vois. Et mon parcours de vie fait que aujourd'hui j'arrive pas à juger quelqu'un, j'arrive pas à être... J'ai rencontré tellement de personnes différentes, d'horizons différentes, avec des états d'esprit différents. Je me dis, bon, ça c'est... Il y a des bons, il y a des super personnes partout, tu vois. Mmh. Et ça c'est extraordinaire, moi je trouve ça extraordinaire.
Comment t'es rentré dans cette bande de comédien, etc., quoi. T'as fait du théâtre?
Ouais, j'ai fait un peu de théâtre, ouais. C'était très compliqué pour moi, le théâtre, parce que je suis arrivé dans un monde que je connaissais pas.
C'était une volonté de ta part de devenir comédien, quoi,
ouais, ouais. À un moment donné. Je suis arrivé dans le théâtre, mais c'était, les deux premiers jours, c'était très particulier. Je me suis barré, d'ailleurs, je suis jamais revenu pendant 3 mois.
Ah ouais? T'avais quel âge?
Ouais, j'étais jeune. J'avais 25, 26.
Oui.
Mais c'était, waouh. Parce que en fait, il y a beaucoup de bobos dans le théâtre. C'est beaucoup de... C'est comment dire, c'est des gens qui s'inventent des problèmes. Et puis, il y a ce problème aussi générationnel où les gens ne veulent pas être acteurs parce que ça les passionne, mais parce que ça fait des likes sur Instagram, parce qu'on va les reconnaître dans la rue. Donc, il n'y a pas la passion du truc, tu vois. C'est comme dans beaucoup de choses aujourd'hui. Mais ça a été formidable, le théâtre. Quand je m'y suis fait, j'ai eu une prof extraordinaire aussi qui m'a complètement ouvert les yeux sur plein de choses. Et ça m'a appris, justement, encore une fois, à ne pas juger des gens. Parce que je suis arrivé dans ce truc de bobo. Je me dis, putain, c'est quoi ces mecs? Chiale sur scène, tu sais, je lui dis qu'est-ce qu'il me fait ce connard. Tu sais, des trucs.
Tu jugeais un peu?
Oh, ben complètement, ouais. Ouais. Je lui dis, mais c'est quoi, c'est fragile, tu vois. Et puis après, je me suis rendu compte au fil des mois que c'était des super mecs, tu vois. Super gentils. Je me suis dit, c'est moi le connard, tu vois, c'est moi la merde. Et puis voilà, après, du coup, ça t'ouvre l'esprit, tu rencontres des gens extraordinaires. Puis c'était super, le tête. Très bonne expérience. Sur le plan du développement personnel, en tout cas, 10 sur 10.
Et c'est là que t'as rencontré toute ta bande de potes aujourd'hui que t'as encore, ou...
Non, pas forcément, mais c'est pas très loin non plus, parce que Yvan, par exemple, il était dans la classe d'avant, l'année d'avant, tu vois. Mais Yvan, c'est un mec qu'on a rencontré avec des amis en commun. Attendez, ça a accroché tout de suite, c'est un super mec, tu vois. Et après, moi, comme j'ai gravité un peu dans Paris, pendant plein de choses, j'ai connu pas mal d'artistes aussi différemment.
Différemment.
Et puis du coup, on s'est...
Comment t'as rencontré les artistes différemment? Tu veux dire bibliquement, c'est ça?
Ouais, on s'est rencontrés, on s'est croisés. Voilà.
Voilà. Sur.
Non, mais dans les rencontres, des machins. Voilà, on se connaissait déjà d'avant, tu vois. Même avec mon activité dans le luxe aussi, j'en ai rencontré plusieurs.
Ok.
Et puis voilà, tu vois, il y a des super mecs aussi dans les artistes, etc. Tu vois, c'est un milieu un peu particulier. Mais j'ai fait des super rencontres, tu vois. Donc.
En fait, si demain on te propose avec là, t'as... En gros, parce que c'est marrant parce que comme t'es hyper chill, t'es vraiment en train d'avoir une notoriété que plein d'acteurs aimeraient avoir, quoi, tu vois. De jeunes acteurs qui débutent, quoi.
Ouais, après, moi je me considère pas comme un acteur, parce que l'acteur c'est quand même un autre métier. Moi je fais des trucs comme ça, avec mon téléphone, mon iPhone, bon... acteur, c'est vraiment une profession très particulière. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Mais acteur, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est du sacrifice, c'est du temps, c'est des répétitions, c'est...
T'as pas envie de faire ça.
C'est pas que j'ai pas envie, mais c'est pas un truc... Moi, j'ai déjà fait les tournages, ça me faisait chier, quoi. Tu restes 6 heures pour dire 3 mots, tu te casses, bon... c'est pas... Moi, je l'ai fait le film avec Zangro, parce que c'est un ami avant tout. J'ai kiffé de ouf, parce que c'est avec un ami, tu vois. Mais j'ai fait des tournages où je me faisais vraiment chier, quoi. Je me suis déjà barré plusieurs fois.
Ah, tu te barres des tournages?
Oui, je me suis barré plusieurs fois. Bah oui, parce que tu sais, à un moment donné, le mec, il te dit de venir à 18h, il te fait tourner à 23h. Allez, tu viens ici, tu dis ton mot, après tu te casses. Moi, je dis, attends, frérot, chef d'entreprise, je me fais chier comme un rat, là, t'es gentil. Je me casse, tu vois. J'ai rien à foutre, moi, tu vois. Si c'est pas le plaisir, je le fais pas, quoi. Faut que je m'amuse. Donc, s'il y a du plaisir, de l'amusement, oui, mais autrement, non. C'est pas un truc qui me fait particulièrement rêver, ouais.
Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler en rapport avec la masculinité? Le fait d'être un mec.
Être un mec aujourd'hui, c'est ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est bien se comporter avec ses amis, être fidèle en amitié. C'est hyper important ça pour moi. T'as la fidélité dans l'amitié. Ah oui. Moi j'ai des amis que je considère comme mes frères de sang. Tu vois, c'est vraiment, l'amitié, c'est hyper important, c'est très précieux.
Ça vient d'où?
De ma vie. Moi, j'ai des amitiés qui sont très, très fortes. Tu vois, c'est vraiment des gens que je considère comme mes frères, tu vois, que j'appelle 3-4 fois par jour, même pour rien dire, hein, tu vois, mais c'est un besoin que j'ai, tu vois.
Ok.
Ouais, puisque c'est bien se comporter avec ses enfants, avec sa femme, avec ses parents. C'est ça, être un homme, respecter tout le monde. C'est ça, être un bonhomme. C'est pas avec des gros bras, faire peur à tout le monde, faire le dur, je fais de la prison. C'est pas ça, être un bonhomme. Bah, oui. Toujours dit, il y a une image de l'homme aujourd'hui en 2021 qui est complètement ridicule. Faut faire peur, faut être méchant. Faut être viril, tu vois, mais frérot, c'est pas ça.
T'as fait de la prison?
Non.
Je sais pas. Non. Dis ça. Comme t'as des gros bras, tu vois, que tu disais.
Non.
Faut avoir des gros bras, faire de la prison.
Non. Mais voilà, c'est ça. Aujourd'hui, être un homme, c'est pas les codes que la société nous enseigne, si tu veux.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour un mec qui s'occupe, qui travaille, qui s'occupe de sa femme, de ses enfants, de son parent, plutôt qu'un repris de justice qui fait le tendu, machin, qui fait le nerveux, qui c'est ridicule, tu vois. C'est pas ça être un bonhomme. Être un bonhomme, c'est s'occuper des gens qu'on aime.
C'est quoi tes projets pour ton compte Insta, pour Michel? Qu'est-ce que va faire Michel? Tu sais, Michel,
il a des vidéos qui vont pas tarder là avec d'autres artistes que j'apprécie, tu vois.
Ouais, parce que j'ai vu là, mais tes vidéos, elles sont likées par T'as vraiment des grosses restas qui te suivent et T'as Black M, t'as Camille Lelouch.
Camille, c'est la famille, c'est une très bonne. C'est une
je ne sais pas, moi.
C'est une meuf que j'aime beaucoup, Camille. Ouais.
Ok.
C'est une fille que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps sur les réseaux.
Ok.
Et elle m'a envoyé des messages pour dire qu'elle appréciait mon taf et tout. Puis toi, à l'époque, moi, j'ai 7-8 000 abonnés, tu vois. Donc ça montre aussi.
C'est cool.
Bah ouais, super gentil. On a accroché tout de suite. C'est un amour, tu vois, elle est super gentille.
Trop bien.
Très, très bonne meuf, très gentille.
Puis t'as Black M, enfin t'as vraiment...
Ouais, mais j'ai déjà... je suis content que ça touche un peu... c'est de plusieurs milieux différents d'artistes, quoi. Tu vois, que ce soit la musique, le cinéma, le sport, c'est cool.
Donc tu vas les faire jouer un peu dans...
Bah, les faire jouer, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que je vais essayer de continuer dans ça, dans la rigolade. Et puis après, on verra ce que ça donne. Mais il n'y a pas de pression particulière, on s'amuse, quoi. C'est le principal, je pense qu'on en a besoin, là.
Merci Michel.
Bah merci à toi de l'invitation.
Tu sais, j'ai envie de te dire us.
Bah us.
Voilà, tu le fais beaucoup mieux, bien sûr.
Non, tu fais 10 sur 10. Je te sous-estime pas vraiment.
Bon, merci, c'était cool.
Bah merci à toi.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.